Bonjour frères et sœurs, je vous souhaite à tous un excellent sabbat. Il y a beaucoup de symboles mystérieux dans le livre de l'Apocalypse. L'un des symboles les plus mystérieux a le mot « mystère » dans son nom. Il s'agit de mystère Babylone la Grande. Qu'est-ce que c'est que ce mystère Babylone la Grande? La parole de Dieu le révèle et c'est ce que nous allons explorer pendant le temps de ce sermon aujourd'hui. L'expression ne se trouve qu'une seule fois dans la Bible, et c'est dans l'Apocalypse chapitre 17. Allons dans le chapitre 17 du livre d'Apocalypse, et nous allons regarder, commencer une étude de ce que représente ce symbole. Apocalypse chapitre 17, à partir du verset 1. Apocalypse 17, verset 1. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en le voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. » Comment est-ce que nous pouvons comprendre cette femme, mystère Babylone la Grande? Eh bien, commençons l'explication. Le mot « mysterion » en grec désigne un mystère divin ou une allégorie qui est maintenant révélée. Donc les mystères sont des choses que nous pouvons comprendre maintenant à l'époque du Nouveau Testament, des choses qui étaient cachées auparavant. Ça, c'est une citation d'un commentaire biblique Expositors. Le passage ici, dans Apocalypse 17, est donc une révélation du mystère d'une entité de la fin des temps qui est également mentionnée ailleurs dans le livre d'Apocalypse comme Babylone la Grande. Cela se trouve dans le chapitre 16, verset 19, et le chapitre 18, verset 2, Babylone la Grande. Maintenant, certains ont commis l'erreur de lire leurs propres interprétations des Écritures. Et en particulier, cela se passe avec les prophéties, les symboles prophétiques. Mais nous devons savoir, au début, c'est notre point de départ, c'est dans 2 Pierre chapitre 1, verset 20, règle très importante pour comprendre les symboles prophétiques. 2 Pierre chapitre 1, verset 20. 2 Pierre, chapitre 1, verset 20. « Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Il ne faut pas avoir une interprétation particulière. Ce n'est pas à nous de donner notre propre sens aux symboles qui se trouvent dans les prophéties de la Bible. Nous devons permettre à la Bible de s'interpréter elle-même. Et c'est ce que nous allons faire pendant cette étude. Ce passage des Écritures fait une remarque très importante et nous devons permettre à la Bible de s'interpréter elle-même. Nous devons également nous rappeler le premier verset du livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 1, verset 1. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Donc c'est une révélation, c'est ce que veut dire le mot Apocalypse, révélation, c'est la révélation de Jésus-Christ. Non pas de Jean, c'était transmis à Jean, mais c'est la révélation de Jésus-Christ. Et donc, c'est à prendre très au sérieux, parce que ça vient de la part de Dieu lui-même. Cette grande prostituée, dont nous avons dressé le portrait au début, est sur le point de recevoir son jugement de la part de Jésus-Christ pour ses péchés, ses nombreux péchés. Elle est également appelée la mère des prostituées. Nous avons vu au verset 5 d'Apocalypse 17, ce qui signifie que d'autres prostituées sont issues d'elle. Les eaux sur lesquelles la prostituée est assise, mentionnées au verset 1, sont décrites au verset 15 comme étant des peuples, des multitudes, des nations et des langues. Quatre fois au chapitre 17, cette Babylone est appelée une prostituée, c'est dans les versets 1, 5, 15 et 16, et six fois elle est appelée une femme, versets 3, 4, 6, 7, 9 et 18. Alors, la question s'impose maintenant, que veut dire, que représente une prostituée dans la Bible? Dans les prophéties de la Bible, une prostituée est souvent utilisée symboliquement d'une infidélité religieuse envers Dieu. Nous voyons cela de nombreuses fois dans l'Ancien Testament, quand la nation d'Israël ou du Juda abandonnait le vrai culte de Dieu, Dieu le considérait comme une prostitution spirituelle. Prenons quelques exemples. Exode chapitre 34. Exode chapitre 34, verset 15. Exode chapitre 34, verset 15. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et leurs filles. Se prostituant à leur Dieu, n'entraînant tes fils à se prostituer à leur Dieu. Donc, adorer un Dieu autre que l'Éternel, le Dieu d'Israël, Dieu le considérait comme une prostitution. Et c'est mentionné plusieurs fois tout au long de l'histoire d'Israël. Dieu se sert de cette analogie très souvent. Juges chapitre 2, le livre des Juges. Chapitre 2. Juges chapitre 2, à partir du verset 17. Juges chapitre 2, verset 17. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux, et se détournèrent promptement de la voie qu'aurait suivi leur père. Et ils n'obéirent point, comme eux, au commandement de l'Éternel. Encore une fois, abandonner Dieu, abandonner sa loi, le vrai culte de l'Éternel, était considéré comme une prostitution. Dans 1 Chronique, chapitre 5, 1 Chronique, chapitre 5, verset 25, 1 Chronique, chapitre 5, verset 25, nous lisons encore une fois, ils péchèrent contre le Dieu de leur père et ils se prostituèrent au Dieu des peuples du pays que Dieu avait détruit devant eux. Donc, aller après un autre Dieu, c'est une forme de prostitution spirituelle. Et c'est cela qui a conduit Israël d'aller en captivité finalement. Israël en captivité chez les Assyriens et Juda en captivité chez les Babyloniens à cause de leur mauvais comportement. Le verset 26 continue, le Dieu d'Israël excita l'esprit de Pul, roi d'Assyrie, et l'esprit de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie. Et Tiglath-Pileser amena captifs les Rubénites, les Gadites et les demi-tribus de Manassé, et il les conduisit à Galak, à Chabor, à Hara et au fleuve de Gozan, où ils sont demeurés jusqu'à ce jour. Ils sont partis en captivité à cause de cette prostitution spirituelle. Regardons également Osée, chapitre 1. Osée, chapitre 1, verset 2. Osée, chapitre 1, verset 2. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. » encore une fois, un exemple où l'abandon du vrai Dieu est considéré comme une prostitution. Et dans Jérémie chapitre 3, Jérémie chapitre 3, à partir du verset 8, Jérémie chapitre 3, verset 8. Quoique j'ai répudié l'infidèle Israël à cause de toutes ses adultères et que je lui ai donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par sa crainte d'ébauche, Israël a souillé le pays et elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Encore une fois, un exemple de ce que Dieu considérait comme prostitution. Juda a suivi le mauvais exemple de sa sœur Israël. Ils n'ont pas eu peur, même quand ils ont vu Israël partir en captivité, ça aurait dû leur enseigner une leçon importante, mais ils n'ont pas appris cette leçon. Dieu considérait leur culte des images de pierres sculptées et du bois comme un adultère national. Donc, ces écritures, ces quelques exemples, et il y en a d'autres qu'on pourrait prendre, mais ces quelques exemples soulignent le fait que abandonner le vrai Dieu est considéré comme une prostitution. Cependant, dans Apocalypse 17, la prostituée n'est pas identifiée à Israël, comme c'est le cas dans les exemples que nous venons de prendre, mais plutôt à Babylone. C'est Babylone qui est la prostituée. Dans la Bible, Babylone est symbolique de défiance envers Dieu. Nous avons l'exemple de la tour de Babel. Dieu a dit qu'il fallait remplir la terre, se disperser, remplir la terre. Et les gens ont dit non, nous allons rester ensemble, nous faire un nom, construire une tour qui monte au ciel. Et en fait, la tour elle-même représentait une défiance envers Dieu. Ils voulaient créer une tour si haute que si Dieu envoyait un autre déluge, tout le monde ne serait pas tué. Ils pourraient défier Dieu en toute sécurité. Ça, c'est ce que nous trouvons dans Genèse chapitre 11. Et c'est Flavius Joseph qui explique le but de cette tour de Babel dans ses écrits. Le symbolisme d'une prostituée dans Apocalypse représente donc un système religieux, pécheur et déchu, qui est infidèle à Dieu et à sa parole. Cette femme est mise en contraste avec la femme décrite dans Apocalypse chapitre 12. Là, il y a une femme qui est décrite comme étant fidèle à Dieu. Pour nous aider à identifier la grande prostituée de Babylone dans l'Apocalypse 17, nous devrions explorer ce que nous avons dans Apocalypse chapitre 12 également, une vierge chaste et pure. Mais d'abord, prenons 2 Corinthiens chapitre 11 pour voir ce symbolisme. 2 Corinthiens chapitre 11. Verset 2, de Corinthiens chapitre 11, verset 2. Paul dit à l'église de Corinthe, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Il voulait présenter cette congrégation, cette église, comme une femme chaste à son époux spirituel, qui est en fait Jésus-Christ. Paul appelle l'église de Corinthe une vierge chaste, qui est affiancée. Et dans ce verset, Paul fait référence à l'église de Dieu dans la ville de Corinthe, comme une femme comme nous avons déjà dit, chaste et pure. Ça, c'est le symbolisme d'une femme chaste. L'apôtre Jean emploie une description similaire dans 2 Jean, verset 1. 2 Jean, verset 1. Deuxième épître de Jean, verset 1. L'ancien, à Kyria, l'élu, et à ces enfants que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Elle est appelée ici une élue, la femme élue. Et au verset 13, nous trouvons l'expression « votre sœur élue », parlant d'une autre congrégation sans doute voisine. Dans ces trois versets, Jean appelle symboliquement l'Église de Dieu une femme élue. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 12, reportons-nous à Apocalypse chapitre 12. Commençons au verset 1 pour voir le symbolisme que nous avons dans ce chapitre. Apocalypse chapitre 12, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Et sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas trouvés plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur terre, et ses anges furent précipités avec lui. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. » Car il a été précipité, l'accusateur des frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps, la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Donc ici, dans ce passage, dans Apocalypse 12, nous avons l'image d'une femme persécutée. Elle est juste, mais elle est persécutée par Satan. Amenée dans le désert où elle peut être protégée au temps de la faim. Au verset 17, c'est marqué que Satan va faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Cette femme représente très clairement l'Église de Dieu, l'Église qui est fidèle à Dieu. La Bible emploie donc l'image d'une femme fidèle et chaste pour représenter l'Église de Dieu et une prostituée pour représenter la désobéissance à Dieu. Autrement dit, une fausse église. Nous avons deux églises opposées ici. Ces exemples dans la Bible dépeignent l'église de Dieu fondée par Jésus-Christ comme une femme chaste. Et il y a une femme qui est fidèle à son futur mari, Jésus-Christ, quand il doit revenir. Et nous avons une femme prostituée qui est infidèle à Dieu, ne respecte pas les instructions de Dieu et vit en désobéissance à Dieu. Maintenant que nous comprenons que la prostituée d'Apocalypse 17 représente une fausse église, examinons ce que ce chapitre dit à son sujet. Elle a une influence mondiale. Nous avons déjà vu qu'elle est assise sur de nombreuses eaux, au verset 1, représentant son influence sur de nombreuses personnes à travers le monde. Je vais reprendre Apocalypse 17 pour faire référence à différentes représentation ici. Au verset 2, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Donc, elle a une grande influence non seulement aux simples citoyens du monde, mais aux responsables également. Elle a une influence sur les dirigeants politiques. Il y a une mention du fait que les gens sont enivrés par son activité. par la confusion spirituelle qu'elle représente, qu'elle provoque par de faux enseignements et de fausses pratiques. Elle a une histoire de persécution. Le verset 6 dit que la femme était ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Cela décrit la persécution contre de véritables chrétiens, les saints de Jésus-Christ. Elle chevauche un système politique puissant. Et puis, il est marqué, je vais vous révéler le mystère de la femme et la bête qui le porte. Ce verset révèle que cette femme chevauche une bête politique et cette bête est décrite ailleurs dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 17, verset 8 à verset 17. Lisons. Alors, nous avons lu jusqu'à verset 6. Prenons le verset 7 maintenant. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes. La bête que tu as vue, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois. Cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même une huitième roi, et elle du nombre des sept, et elle va à la perdition. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu d'autorité. De royaume, pardon, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein et donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront également. Donc cette bête, c'est ce système politique avec les rois de la terre, tout ce système va travailler avec cette grande prostituée, fausse église, vers le temps de la fin. Il est également question de cette bête dans Apocalypse chapitre 13, versets 3 à 8, et Daniel chapitre 7, versets 7 et 8. En considérant tous ces indices bibliques, de nombreux étudiants en histoire et en prophétie ont conclu que la femme d'Apocalypse 17 représente l'Église catholique romaine, qui a conduit le Saint-Empire romain à infliger de grandes persécutions contre de véritables chrétiens et a même perpétré le martyre de beaucoup de chrétiens qui adhéraient aux enseignements véridiques de la parole de Dieu. Des chrétiens, pendant longtemps, au Moyen-Âge, qui continuaient à observer le sabbat, le septième jour de la semaine, qui ont continué d'observer les fêtes bibliques qui sont mentionnées dans la Bible, comme la Pâque, comme les autres fêtes qui tombent dans l'année, eh bien, ils étaient considérés comme hérétiques par l'Église catholique romaine et ils étaient persécutés, parfois jusqu'à la mort. Les gens étaient mis à mort puisqu'ils refusaient d'arrêter l'observance des vrais jours saints et ils refusaient d'accepter de faux jours saints comme les Pâques et Noël que l'Église catholique avait adoptés. Cette Église est centrée dans une ville d'influence mondiale. Dans Apocalypse 17, on nous décrit l'emplacement qui se trouve dans le centre de Babylone la Grande. La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Ça, c'est le verset 18. Lorsque Jean a reçu cette vision de Jésus-Christ, il n'y avait qu'une seule ville sur la terre qui régnait sur les rois de la terre, et il s'agissait de la ville de Rome. Bien sûr, l'Église catholique romaine est indissociablement liée à cette grande ville de Rome. Elle porte le nom de Rome dans son propre nom, enseigne que Rome est la ville principale de tout le christianisme dans le monde, et continue d'avoir son siège dans cette ville aujourd'hui. La cité du Vatican, située à Rome, est techniquement la plus petite nation souveraine du monde. En revanche, la femme fidèle d'Apocalypse 12 n'a régné sur aucun roi de la terre. Et pour elle, tout a commencé à Jérusalem, non pas à Rome. Dans Apocalypse chapitre 17, ce système religieux est appelé la mère des prostituées, ce qui signifie que cette grande église a donné naissance à d'autres églises plus petites. Le fait qu'elles soient également appelées prostituées indique qu'elles ont également infidèles aux enseignements de Dieu, les enseignements que nous trouvons dans la Bible. Une fois que nous avons identifié la mère, il n'est pas difficile d'identifier les autres églises qui sont issues d'elle. Elle est la mère de toutes les églises qui se sont séparées d'elle, mais qui continuent de suivre ses enseignements, ses fausses doctrines, l'observance du dimanche au lieu du sabbat, parmi d'autres. Il y a eu deux schismes majeurs dans l'histoire de l'Église catholique. Le premier était le grand schisme de l'an 1054, lorsque les églises de l'Est, les églises orientales, se séparèrent de Rome pour devenir des églises orthodoxes orientales, grecques, russes, etc. Le deuxième fut la réforme protestante du XVIe siècle, qui a conduit à la création de multiples nouvelles confessions à travers l'Europe et à travers le monde. Toutes ces églises sont issues de cette église mère. Bien qu'il existe aujourd'hui beaucoup de confessions religieuses, la plupart d'entre elles se trouvent leurs racines dans l'Église catholique romaine, soit par le grand schisme, soit par la réforme protestante. Presque toutes continuent d'enseigner et de pratiquer bon nombre de fausses doctrines issues de l'Église romaine, l'observance du dimanche comme jour de culte, enseignement que Dieu est une trinité, la célébration des fêtes basées sur le paganisme, parmi d'autres. Mystère Babylone la Grande n'est pas seulement appelée la mère des prostituées, le même verset l'appelle également la mère des abominations de la terre. Le verset précédent dit que la femme tient dans sa main une coupe d'or, pleine d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Pourquoi est-ce que Jésus emploie un langage aussi dur pour parler de cette église? Eh bien, la réponse se trouve en partie dans ce que Jésus a dit aux pharisiens dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, verset 15. Luc chapitre 16, verset 15. Jésus leur dit, « Vous vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Ce que les êtres humains trouvent élevé, important, beau à voir, etc., aux yeux de Dieu, c'est une abomination. Et c'est pour cela que ce mot est employé pour cette prostituée, pour cette fausse église. Jésus-Christ a dit à Jean, par l'intermédiaire de son ange, qu'il montrerait le jugement de la grande prostituée. Le jugement final est révélé dans le chapitre suivant. Nous trouvons dans Apocalypse chapitre 18. Apocalypse 18. Apocalypse chapitre 18, verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « elle est tombée, Babylone la Grande, elle est devenue une habitation de démons et un repère de tout esprit impur, un repère pour tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » C'est marqué, cette chute, quand elle viendra, va se passer très très rapidement. Les gens seront étonnés de voir la vitesse avec laquelle elle va chuter. Verset 10, par exemple, dit, « Malheur, malheur, la grande ville de Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu son jugement. » En une heure seulement, ça va se passer très très vite finalement à la fin. Le verset 17. Tous les pilotes, tous ceux qui naviguaient vers les lieux, les marins et tous ceux qui exploitaient la mer se tenaient éloignés et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville est semblable à la grande ville. Et tout cela s'est passé extrêmement vite. Le verset 17 dit en un verset 19 également, ainsi sera précipitée avec violence la grande ville et on ne la retrouvera plus. Ça c'est au verset 21. Ce sera la vengeance que Dieu va procéder à appliquer sur Babylone pour venger tous les serviteurs de Dieu qui ont été persécutés à travers l'histoire. Jésus-Christ nous donne à tous un avertissement à propos de Babylone la Grande à venir dans son jugement contre cette femme. Verset 18, verset 4. J'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Dieu va se venger sur cette prostituée religieuse symbolique pour les punitions qu'ils ont opérées sur le peuple de Dieu. Maintenant, il y a deux choses que nous devons retenir de ce que nous avons étudié aujourd'hui. Premièrement, nous devons nous éloigner complètement de toutes les doctrines et les pratiques qui ne sont pas issues de la parole de Dieu, la Bible. Les chrétiens doivent combattre pour la foi qui était transmise aux saints une fois pour toutes, comme elle est marquée dans Jude, chapitre 3. La pression risque d'être intense pour forcer des vrais chrétiens de se compromettre avec ce grand système. La pression sera grande, mais il sera très important pour nous de rester fidèles aux enseignements de la Bible, fidèles à ce que nous savons très bien être la volonté de Dieu. Nous devons suivre les doctrines et les enseignements de la femme fidèle d'Apocalypse chapitre 12. Deuxièmement, les chrétiens ne doivent pas retourner aux fausses doctrines et aux enseignements de cette fausse femme après être sortis d'elle. Et là, encore une fois, la pression sera grande d'y retourner. Il y a des chrétiens qui ont déjà commis cette erreur. Ils sont retournés dans des fausses doctrines dans le passé. Et la Bible indique que certains vont commettre cette erreur encore dans l'avenir. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, des avertissements aux différentes parties de l'Église, différentes congrégations, et nous savons qu'il y a un accomplissement d'Apocalypse 2 et 3 qui touche le temps de la fin. Allons-y, Apocalypse chapitre 2. Nous avons différents avertissements aux différentes églises. Verset 1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est un avertissement pour la congrégation d'Éphèse au premier siècle. C'est un avertissement pour tous les chrétiens de tous les temps. Et puis, quand nous arrivons vers la fin de ces sept églises qui sont mentionnées dans ce chapitre, il y a une partie chronologique qui touche particulièrement le temps juste avant le retour de Jésus-Christ. Je ne vais pas prendre le temps de tous les lire, mais tous ces sept messages aux sept églises sont des messages pour nous maintenant, mais quand nous arrivons vers la fin, il y a un message en particulier pour les chrétiens, vraiment tout à la fin de cette ère. Prenons le verset 7 d'Apocalypse 3 maintenant. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, « Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ça, c'est clairement dans le contexte du temps de la fin. Ça, c'est une église exemplaire, Philadelphie, et ça, c'est l'exemple que nous devons suivre, nous devons émuler son exemple, être persévérant, être fidèle à Dieu. Et Dieu va garder ces chrétiens-là de cette époque de tribulation, de problèmes à la fin de ce monde présent. Donc là, il y a un encouragement de persévérer dans la bonne voie. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 14, nous avons un autre avertissement à ce qu'il ne faut pas faire. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bruyant. Puisses-tu être froid ou bruyant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bruyant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Alors chaque message, les sept, c'est pour toute l'Église. Mais ces deux dernières, Philadelphie et Laodicée, ont des marqueurs chronologiques qui indiquent qu'ils vont exister, ces groupes, au moment du retour de Jésus-Christ et au moment de la tribulation également. L'un est menacé s'il ne se repent pas, s'il ne reprend pas du zèle, et l'autre soit une promesse à cause de sa fidélité d'être protégé dans les événements très difficiles qui vont venir juste avant le retour de Christ. Donc, une leçon que nous devons retenir, c'est de veiller au point faible de Laodicée et de nous repentir, si jamais nous voyons ces tares dans notre caractère, et de suivre finalement la fidélité de Philadelphie en étant fidèle à Dieu dans sa loi, dans l'accomplissement de toute sa volonté. Les chrétiens ne peuvent pas adorer Dieu en esprit et en vérité, comme Jésus l'a dit dans Jean chapitre 4, verset 24, si on se laisse mêler à des fausses doctrines et à des faux enseignements et à des faux pratiques. Ça, c'est une chose qu'il faut éviter à tout prix. Jésus-Christ a révélé au lecteur le mystère de qui est Babylone la Grande. Elle n'est plus un mystère. À nous de sortir d'elle afin de ne pas recevoir la punition destinée à s'abattre sur elle et sur tous ceux qui suivent ses enseignements erronés. À nous d'être fidèles à Dieu et de suivre l'exemple de Philadelphie.